Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans le Café des Sports de Radio Foot International, le dernier rendez-vous de la semaine pour vous tous avant deux journées de sevrage, on va dire, même si vous êtes des fidèles auditeurs, j'en suis sûre, de Mondial Sport durant le week-end. Invité dans ce studio aujourd'hui, Rémi Ngono, il est là. Bonjour Rémi.
Bonjour Annie et bonjour à tous les Africains, surtout qu'il fait très froid actuellement à Paris. Parfois je me demande, mon Dieu, que l'Afrique me manque.
Ah oui, elle nous manque à tous, même si on n'est pas africain, Rémi, parce que le soleil, là, on commence à être sevré, nous aussi. Xavier Barré, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Gilles Verdez est là aujourd'hui avec nous. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Et puis le réfet, bien sûr, il est là, il nous surveille. Bonjour.
Absolument. Alejandro
Valente. Dans les débats du jour de ce Café des Sports, un mercato de folie en cet hiver 2018. Jamais les grands clubs n'avaient autant acheté et dépensé, les Anglais notamment. Ce marché dit d'ajustement a-t-il changé de nature? Et quels sont les clubs qui y ont gagné le plus? Deux grands rendez-vous à travers l'Europe ce week-end en championnat. En Angleterre, Liverpool recevra Tottenham dans la grande bagarre de Premier League pour une place en Ligue des Champions, loin derrière City. Alors que en France, eh bien, Monaco recevra Lyon, la bataille de la troisième place derrière cette fois le PSG. L'arbitre tacleur taclé par la commission de discipline, 3 mois de suspension ferme pour Tony Chaperon, mais il pourra donc encore arbitrer avant sa retraite. Un bonjour à un confrère de Centrafrique, Fridolin Wambobo, confrère donc de Bangui et président de l'Association des journalistes sportifs de Centrafrique qui nous dit qu'il nous suit chaque jour. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts. La Confédération africaine de football, la CAF, était ce matin réunie en assemblée générale à Casablanca, la 40e en ce week-end de finale du CHAN. Demain, il y aura la dispute pour la 3e place entre la Libye et le Soudan, alors que dimanche, eh bien, entre Maroc et Nigeria, ce sera la dispute pour le titre de ce 5e CHAN. Les dirigeants africains se sont donc retrouvés et Christophe Jousset était aussi à l'assemblée générale. Bonjour Christophe.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors Christophe, le Maroc, on s'en souvient, vous y étiez déjà la semaine dernière. Il avait présenté en grande pompe sa candidature pour la Coupe du Monde 2026, candidat à l'organisation. Et il attendait aujourd'hui le soutien de tous les pays africains dans son sillage, il l'espérait. Est-ce qu'ils ont été suivis les Marocains?
Non, il n'y a pas de soutien en bloc. La seule expression de soutien est venue encore une fois du président de la CAF. Ça tranche avec les habitudes et ça s'est passé dans des conditions un peu particulières qui méritent d'être racontées brièvement parce que on se souvient que quand le Maroc avait annoncé sa candidature l'été dernier, au mois d'août 2017, le président Hamad, le président de la CAF, avait dit qu'il soutenait sans réserve cette candidature marocaine et qu'il appelait à un soutien franc et massif de l'ensemble du continent. Ici, il n'y a rien eu de tel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, il y a eu une lettre adressée par la secrétaire générale de la Fédération internationale de la FIFA, Fatma Samoura, une lettre à l'ensemble des membres de la FIFA pour demander à ses membres de s'abstenir, de s'exprimer publiquement pour ou contre telle ou telle candidature. Donc pour la candidature du Maroc ou pour la candidature États-Unis, Mexique, Canada. Un appel en fait à la retenue. Ce sont les nouvelles règles prônées par la FIFA. Discrétion, retenue, réserve. C'était tout à l'heure, au cours de l'Assemblée Générale, à une espèce de grand écart, parce que entre les vieilles habitudes qui étaient le soutien en bloc et les nouvelles qui prônent la retenue, ce n'était pas évident. On a cru qu'il allait se passer quelque chose quand, en début d'Assemblée Générale, Hamad a dit qu'il renouvelait son soutien et qu'à la fin de l'Assemblée Générale, on écouterait Fouzil Egja, le président de la Fédération marocaine de football, au sujet de la candidature 2026. Mais arrivé au bout de l'Assemblée générale, eh bien Fouzil Ekja n'a pas repris la parole. Son intervention a été annulée, tout ça sous le regard de Gianni Infantino qui était à la tribune pendant toute l'Assemblée générale.
On se souvient, hein, Christophe, déjà de la présence de Gianni Infantino en avril dernier, en mars dernier, en Addis Abeba, lors de la prise de pouvoir de Hamad. Il y avait déjà son regard et Fatma Samoura était à ses côtés. Christophe Jousset nous disait, Alejandro Valente, que c'est donc finalement une prise de position très politique, parce qu'on le sait, la FIFA a par ailleurs comme une dette morale envers les États-Unis qui sont candidats à l'organisation.
Oui, mais surtout la FIFA découvre les avantages et aussi les inconvénients de la démocratie. Donc jusqu'à présent, on regrettait les pouvoirs exorbitants que détenaient les présidents des confédérations qui faisaient la pluie et le beau temps et qui élisaient assez largement les pays organisateurs au sein du comité exécutif. Du moment que la nouvelle FIFA, entre guillemets, a décidé que tous les membres de la FIFA vont voter pour désigner les pays organisateurs, évidemment, on court le risque de la foire d'empoigne, des annonces impromptues, des prises de position, des pressions diverses et variées. Et donc Infantino, par le biais de sa secrétaire générale, a essayé de mettre un peu d'ordre dans ces chaos en disant qu'il faut pas s'exprimer publiquement. C'est un vœu pieux. À mon avis, il ne sera pas longtemps suivi dans cette voie. Et il va falloir que la FIFA trouve le moyen de contrôler un petit peu ces dérives qui risquent de se produire dans la quête d'un pays organisateur.
Gilles,
le pari de la FIFA, c'est de casser les blocs, c'est-à-dire de dire nous sommes la FIFA, organisation supranationale, supracontinentale.
Donc avec une voix pour chaque pays, hein, on s'en souvient qu'il y ait beaucoup de footballeurs ou pas.
Bien sûr, c'est ce qui a valu au président actuel d'être élu d'ailleurs. Il a pays par pays, il a réussi à conquérir le pouvoir. Donc il veut continuer comme ça. Mais effectivement, comme disait El Jefe, le problème de casser les blocs, c'est que ça part dans tous les sens. Il y a un éparpillement monumental. Et au moment où il faudra une majorité, je ne sais pas comment on la constituera, le pari aussi des dirigeants de la FIFA, c'est de dire quand il y avait les blocs, il y avait des magouilles. On pouvait contrôler. Alors que là, on ne pourra pas contrôler. Seul moi, Infantino, je pourrais contrôler. Encore faut-il qu'il ait le pouvoir de contrôler.
Rémi, est-ce que ça hypothèque la solidarité africaine?
Y a-t-il déjà eu solidarité africaine en ce qui concerne même ces choses-là, dans la mesure où nous nous souvenons encore que, à une certaine période, il y avait Issa Hayatou qui avait donné sa voix en disant que nous soutenons le Cheikh Salman en ce qui concernait, par exemple, au niveau de la candidature de la FIFA. Mais on s'est retrouvé avec une Afrique qui était totalement éparpillée parce que chacun voulant, bien évidemment, faire que sa poche soit beaucoup plus gonflée que celle de l'autre. Donc, pratiquement, c'était des voix... aussi une sorte de troc démocratique, je te donne ma voix et toi tu me donnes un peu de pognon. C'est comme ça que ça se passait. C'était pas la solidarité en fonction de ce qu'on peut dire que voilà, nous voulons ceci et cela. C'était chacun pour soi et un certain bloc qui s'est réuni parce qu'il faut se faire des poches, il faut se faire un peu d'argent. Donc maintenant, je crois quand même qu'il y a toujours eu des magouilles, mais je crois tout au moins aussi que cette pratique va permettre à certains qui sont faibles de ne pas pouvoir s'exposer à certaines sanctions. Je me souviens dernièrement encore, je vais peut-être un peu aller sur le plan politique puisqu'on en a fait allusion, lorsque par exemple Trump a dit dernièrement « Oh bien, je vais surveiller les petits pays là, vous qui ne votez pas les résolutions des États-Unis, eh bien je vais vous punir ». Si justement les États-Unis se retrouvent avec
candidat
à la Coupe du Monde et qui est des petits pays, des petites fédérations, voire confédérations, qui disent que nous nous mettons contre les États-Unis sans nombre d'un doute, il y aura des politiques, et bien évidemment, et cela vont toujours subir. Mais, il y a un proverbe africain qui dit que la loi de la cruche est de la pierre. Que la pierre tombe sur la cruche, eh bien, c'est la cruche qui se brise. Que maintenant, ce soit l'inverse, c'est toujours la cruche qui se brise.
Xavier.
Non, mais je crois qu'il faut rappeler une chose, c'est que tout ce malentendu vient de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.
Ben oui.
Parce que au départ, ce qui s'est passé, c'est que Blatter, à l'époque, et l'ancienne administration de la FIFA, dont Gianni Infantino était quand même secrétaire général de l'UEFA.
Un petit nombre de personnages étaient responsables du choix.
Mais ils avaient convenu d'attribuer la Coupe du Monde 2010 à l'Afrique, puisque l'Afrique l'avait pas eu en 2006 pour les raisons que l'on sait. En 2014, l'Amérique du Sud et le Brésil a été seul candidat, donc il n'y a pas eu de magouille à ce moment-là, puisqu'il n'y avait pas d'autres candidats. Et en 2018, ils ont dit, voilà, on va réouvrir les candidatures, et on va, pour avoir plus de visibilité pour nos contrats de partenariat avec notamment les gros sponsors de la FIFA, on va même attribuer deux Coupes du Monde, comme ça, ça nous donnera de la visibilité sur 10 ans. Ce qui n'était pas idiot en soi. Et donc la FIFA avait, et sa commission d'évaluation, qui est un peu l'équivalent de ce qu'il y a pour le CIO, pour l'attribution des Jeux Olympiques, eh bien avait dit, voilà, pour 2018, on mettra la Coupe du Monde en Angleterre, et pour 2022, on la mettra aux États-Unis, c'est les meilleures candidatures. Et c'est celles qui apporteront le plus de garanties à nos sponsors.
Et
c'est pas ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, il y a eu de la corruption, des magouilles, et donc Poutine a eu la Coupe du Monde en Russie pour 2018, et le Qatar pour 2022. Et du coup, la FIFA et tous ceux qui travaillent au quotidien, notamment avec les partenaires commerciaux, se retrouvent avec cet engagement pris vis-à-vis des États-Unis normalement, il faut leur envoyer quand même la Coupe du Monde. Donc du coup, en 2026, il y a pas 36 possibilités, il faut l'envoyer aux États-Unis. Manque de peau, c'est dommage pour le Maroc, parce que le Maroc représentait une excellente synthèse entre l'Afrique et l'Europe. C'est quand même le pays qui est au centre de ce méridien, si vous permettez l'expression. Mm-hmm. Et donc, il aurait fait la bonne synthèse pour organiser la Coupe du Monde entre les deux
oui,
blocs.
Oui, mais encore faudra-t-il que les États-Unis obtiennent les voix nécessaires. Beaucoup de monde à dos à dire des choses méchantes à l'égard de beaucoup de pays, on risque d'avoir une énorme surprise.
Pensez à la cruche de Rémi Alejandro. Gilles, pour terminer.
Je suis d'accord, le Maroc maintenant doit miser sur la politique. Voilà. Si c'est un choix économique, sportif, hélas pour le Maroc, ça ne marchera pas.
Ils n'ont pas Nike.
Effectivement, voilà, il peut y avoir de nouveaux faux pas de Trump. Et pour le Maroc, c'est très important de prendre date. Souvent, il y a des candidatures.
C'est un moment qui prend date. Ils ont déjà été candidats en 1998.
Oui, mais on l'a vu avec la France pour les Jeux Olympiques, avec Paris. Paris a su se relever d'échecs.
Oui, mais
d'échecs
enfin, douloureux. Il faut dire les choses de cette façon. Paris l'a eu parce qu'il n'y avait personne d'autre.
Oui, mais
c'est pas une réussite que Paris ait les Jeux Olympiques.
Je dis pas ça. Je dis que Paris l'a eu.
Ouais.
Voilà. Mais et donc, le Maroc peut faire une candidature. Non, c'est une candidature de témoignage, une candidature de prise de date.
Persévérance.
De persévérance pour l'avenir.
Christophe, il y avait un autre thème dont on pensait en tout cas avoir une réponse, c'était autour de la CAN 2019, quelques nouvelles, puisque cette compétition attribuée au Cameroun a subi une mission d'inspection et on se disait qu'on aurait peut-être la réponse. Est-ce qu'elle aura toujours lieu au Cameroun ?
Alors là, il n'y a pas de véritable avancée. Le sujet n'a pas été évoqué en fait au cours de l'Assemblée générale de la CAF. On pensait effectivement qu'il pouvait y avoir quelques éléments nouveaux. Hier soir, on nous a expliqué que non, c'était un rapport intermédiaire que la mission d'inspection qui était au Cameroun le mois dernier avait établi pour le moment et qu'il fallait attendre le rapport définitif qui serait livré à la fin du mois de février. Donc l'Assemblée générale se passe tout à l'heure sans que le sujet soit évoqué du tout. Et puis en conférence de presse d'après Assemblée générale où il y avait le seul président Hamad en face de nous, il y a eu une question dans la salle effectivement sur la CAN 2019 au Cameroun, et là, le président Hamad a prononcé quelques phrases. Il a dit notamment qu'entre le rapport, donc, qu'il a dans les mains, et le cahier des charges, il y a un déficit énorme, je cite, hein, il y a un déficit énorme qu'on demande au Cameroun de rattraper dans la mesure du possible. Et ensuite, le président Hamad a enchaîné en rappelant que tous les acteurs du football avaient demandé à la CAF une CAN meilleure, que ce soit au niveau des stades, au niveau des pelouses, au niveau des hôtels, des infrastructures. Bref, on est encore dans le maintien de la pression sur le Cameroun. On sait que le Cameroun reste devant un grand défi au niveau des infrastructures pour cette CAN qui était prévue à 16 et qui est passée en cours de route à 24. Et l'affaire n'est pas réglée, c'est le moins que l'on puisse dire. Et le président Hamad continue de souffler le chaud et le froid.
Ouais. Bon, bah alors le suspense continue et continuera à suivre ce feuilleton. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été en direct avec nous. Bonne finale au pluriel, alors, pour vous, ce week-end. Merci beaucoup. À noter aussi cette grande première pour le Burkina Faso. Le président de la fédération pour Burkinabé, Sita Sankaré, a été élu durant cette assemblée générale, membre du comité exécutif de la CAF. Et c'est la première fois que le Burkina Faso est représenté à ce niveau.
Mon carton vert est parti.
Mince! Ah, excusez-moi Réunion, mais je suis sûre que vos auditeurs en ont d'autres à vous proposer.
Ça m'a coûté une blinde.
Je crois que vous payez beaucoup trop cher.
C'est un drôle de business, faut dire. Pas vrai ?
Et je m'en frotte les mains d'avance.
Alors, marché conclu ? Allez, le jackpot.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi.
Aucun jour de crise dans le monde du football business. Au contraire même, et au cours d'un mercato d'hiver, eh bien, les clubs peuvent casser leur tirelire. Ainsi, en janvier, les clubs anglais ont battu un record, 490 millions d'euros dépensés, selon le cabinet Deloitte qui surveille tous ses comptes. Et c'était 256 millions juste pour la journée du 31 janvier, c'est-à-dire à l'heure où se clôt le mercato. Et résultat, eh bien, cette année, les dépenses ont été encore plus folles que la saison dernière du côté de l'Angleterre. Une question, messieurs, est-ce que le mercato d'hiver a changé de nature ? Xavier.
Sur ce qu'on a vu cet hiver, oui, clairement, on voit qu'il y a des clubs qui n'hésitent pas à bouleverser carrément leur effectif.
Oui, sauf que par exemple, un club comme Saint-Etienne, s'il bouleverse son effectif, on comprend pourquoi. Ils sont au bord du gouffre, ils sont au bord de la relégation.
Oui,
ce
je pensais pas forcément à Saint-Etienne, je pensais plutôt justement à Arsenal et à Manchester United, parce que quand vous voyez les recrutements qui ont été faits, notamment par Arsenal avec Mkhitaryan et Pierre-Emerick Aubameyang, presque 100 millions d'euros pour les deux, quand vous voyez que Alexis Sanchez part en cours de saison, donc d'Arsenal pour Manchester United, alors qu'on l'attendait plutôt à Manchester City, on voit que ce sont des transferts importants, c'est pas du rattrapage, c'est vraiment une volonté de part et d'autre de passer à autre chose. Bon, pour Arsenal, je vais pas donner trop de grains à moudre à Rémy Nguenot, donc je vais dire qu'il y a besoin de se relancer et donc ils essayent d'apporter du sang neuf. Mais pour Manchester United, faut rappeler une chose, c'est qu'il y a quand même 8 joueurs en fin de contrat au terme de la saison, que José Mourinho n'arrive pas à faire re-signer certains joueurs comme par exemple Marouane Fellaini, il veut pas rester, d'autres veulent aussi partir, et de toute façon Mourinho les retiendra pas comme les Espagnols Juan Mata ou Ander Herrera, et donc il y a l'opportunité de prendre Alexis Sanchez. Au départ on pensait que
c'est-à-dire qu'on anticipe le prochain mercato.
On anticipe, et c'est également ce qu'a fait Barcelone avec Philippe Coutinho, qui est destiné à remplacer Iniesta.
Oui, alors ça c'était peut-être un épisode raté du dernier mercato. Gilles.
Xavier a une vision totalement teinté d'angélisme du football, c'est une naïveté qu'on croirait
surprenante.
Et non pas surprenante venant de lui, mais on dirait que ça date d'il y a 50 ans. C'est un marché, c'est un mercato mercantile, c'est pour faire de l'argent. On peut justifier quelques choix footballistiques, je suis d'accord, mais sinon c'est le mercato des agents, c'est la déréglementation à tout va, exit totalement le fair-play financier, tous les clubs s'en exonèrent. On n'en entend d'ailleurs plus parler. Tout le monde est dans les clous parce qu'il n'y a plus de clous. Et c'est pour faire de l'argent. C'est pour que les agents prennent des commissions, pour que les joueurs aient de meilleurs salaires. Et puis après, c'est une déréglementation, pour moi, folle. Ça n'a plus aucun sens. À ce moment-là, on peut tout changer au mois de janvier.
Alejandro.
Oui, je suis assez d'accord avec Gilles. Cela dit, je pense, pour répondre à votre question, qu'il y a des clubs qui ont fait des bonnes affaires ou de soi-disant bonnes affaires et des clubs qui en ont fait de moins bonnes. Je dirais que pour moi, les deux clubs qui sortent vainqueurs, entre guillemets, de ces mercato, c'est Manchester City et Barcelone. Deux clubs qui dominent leur championnat et qui ont su renforcer des position qui leur tenait à cœur. Aymeric Laporte qui vient renforcer la défense centrale de Manchester City, et Philippe Coutinho qui était très attendu comme solution de réchange pour André Iniesta.
Rémi, est-ce qu'il y a un changement de nature ou qui y a gagné dans ce mercato finalement, ce mercato d'hiver ?
Je peux dire que comme d'habitude, c'est Arsenal qui perd. Parce que je ne vois pas qui gagne, je vois plutôt qui perd. Parce que justement, vous êtes quand même en train de me dire que...
Ils ont perdu Sanchez, mais ils ont gagné Aubameyang.
Ah oui, mais sachez très bien que Aubameyang, quand vous arrivez aussi au niveau d'Arsenal, il y a eu les Van Persie qui sont passés là-bas, il y a eu les Archavine, il y a eu tout le monde qui est passé. Arsenal, c'est une machine à broyer, à tuer des talents. Donc pratiquement, je vois...
Ça n'a pas toujours été le cas.
Aubameyang quitte quand même l'Allemagne pour aller là-bas, mais écoutez, moi... J'ai dit, il y a un proverbe africain qui dit, pour se sauver, on ne fuit pas la fumée pour aller tomber dans le feu.
Même. je trouve ça quand même, venant de Rémy, un tout petit peu méprisant pour Aubameyang. À Dortmund, on sait très bien que le club lui a fait des misères, il était presque rejeté. Donc franchement, bravo à lui d'avoir retrouvé un club.
C'est la fin de la première partie de Radio Foot International. On se retrouve juste après la pause pour continuer à parler de football.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Notre café des sports, porte ouverte toujours pour cette deuxième partie avec Gilles Verdez, Rémi Ngono, Xavier Barré, Alejandro Valente, El Jefe. Et nous allons continuer à parler de football. Nous évoquions l'Angleterre. L'Angleterre où l'on verra donc peut-être Pierre-Emerick Aubameyang sous le maillot d'Arsenal. N'en déplaise à Rémi Ngono, eh bien peut-être faire ses premiers pas avec son maillot de Gunner. Peut-être aussi verra-t-on l'ancien parisien Lucas Moura. Qui lui est parti à Tottenham parce que cette 26e journée aura pour point d'orgue dimanche en fin d'après-midi un Liverpool-Tottenham sur la pelouse d'Anfield. Deux équipes que deux places et deux points séparent. Alors en Première Ligue, on se bat finalement à 5 pour 3 places en Ligue des Champions, Alejandro.
Absolument. Ah bah oui. Les Big Six est devenu Big Five depuis qu'Arsenal
est-ce qu'on peut citer les cinq là?
Oui, mais c'est parce qu'il y en a qui...
Xavier Barré, vous pouvez nous citer les cinq
qui se battent, les cinq qui se battent, c'est très simple. Il y a Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal et Man U.
Ah, Arsenal aussi?
Mais oui, bien sûr.
Pour la relégation?
Non, on sait que Manchester City...
Arsenal se bat pour l'Europa League.
On sait que Manchester City est devant, et puis après, il y a les autres qui concourent pour les places européennes.
Arsenal se bat pour l'Europa League.
On verra.
Ils vous cherchent.
Chaque année...
Arsenal est quand même assez armé. Cette année, Arsenal est en Europa League. Justement, quand
Arsenal
tu dis...
Arsenal est en finale de la Coupe de la Ligue, effectivement.
Je vous demande de vous arrêter.
Alejandro Valente était en train de parler, on va lui rendre la parole. Réfé.
Bah oui, donc je pense que effectivement ce match est très important, il a une importance énorme parce que Tottenham vient de battre Manchester United, c'est qui quand même l'a bien relancé, et le problème de Tottenham, et c'est là qu'on l'attend,
ils ont battu Manu aussi.
Oui, ils ont battu Manu, c'est ce que
Pardon, ils ont oui, parce qu'ils avaient battu Manchester City, pardon, ils ont battu les deux Manchester.
Donc en fait, Tottenham est l'équipe qui réussit souvent à domicile mais qui ne gagne jamais contre les grands à l'extérieur. À part une victoire contre City il y a 2 ans, je pense que qu'ils ne gagnent jamais à l'extérieur contre un grand, et là ils ont l'occasion quand même de faire la preuve, c'est le moment ou jamais.
Oui, ouais. C'est vrai, les statistiques sont terribles pour Pochettino d'ailleurs. Pour revenir sur ce que disait le chef, en déplacement, 9 points sur 54 possibles face à Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United. C'est terrible. Ça veut dire que Tottenham, qui fait souvent des cartons pleins à domicile, effectivement, 18 matchs à l'extérieur, si on prend tout le Big Six, une seule victoire, ça veut dire que Tottenham ne pourra pas assouvir ses ambitions de titre ou alors en permanence d'être sur le podium, s'ils ne réussissent pas à vaincre cette malédiction ou cette impuissance à l'extérieur.
C'est bien d'avoir des statistiques par Gilles Verdez, c'est pas par Ngono pour une fois.
Oui. Non mais c'est vrai que si vous voulez
sont à côté.
Si vous voulez des statistiques, je peux vous en donner quelques-unes, parce que j'en ai fait en préparant le 11 d'Europe là, qu'on diffusera ce soir sur Canal Plus Sport. Mais par exemple, Tottenham n'a plus gagné à Liverpool depuis 2011. Donc
mais
quelque
est
part,
la
c'est,
raison
un peu,
de...
c'est un peu fréquent qu'ils aient des difficultés en déplacement.
Quelle est la raison de cette faiblesse à l'extérieur?
Alors, je vais vous dire mon point de vue, c'est que la priorité pour Tottenham cette saison, c'était d'être bon à la maison. Parce que faut rappeler une chose, c'est qu'ils jouaient la saison dernière, et depuis la nuit des temps, à White Hart Lane. Et le terrain de White Hart Lane, c'est 100 mètres par 67. C'était le deuxième plus petit terrain de la Première Ligue. Ça, c'est des stats que ni Rémi Ngono, ni Gilles Verdez n'avaient. Mais laissez-moi finir. Et donc, en allant à Wembley cette saison, ils passent sur un terrain beaucoup plus grand, qui fait 105 mètres par 69
mètres. Tout s'explique.
Et voilà. Eh bien, ça s'explique pourquoi. Parce que Tottenham et son entraîneur Pochettino préconisent le pressing. Et le pressing, et notamment le pressing haut pour récupérer le ballon, ça s'effectue beaucoup plus facilement sur un terrain plus petit, évidemment. Et donc, ils ont dû changer tous les terrains d'entraînement de White Hart Lane pour que Tottenham soit performant à Wembley cette saison. Parce que rappelez-vous que la saison dernière et les saisons précédentes, ils ne gagnaient jamais à Wembley, notamment en Ligue des Champions, puisqu'ils allaient jouer les matchs de Ligue des Champions à Wembley. Ils se sont fait éliminer dès le premier tour. Et cette année, ils ont réussi ce tour de force qui est d'être performants chez eux, devant ce public.
Oui, mais ça peut
voilà, donc ça, c'est la première.
Chez eux,
c'est la première étape.
Mais pourquoi ils sont nuls à l'extérieur alors?
C'est la première étape. Après,
ils ont qu'à s'entraîner sur des terrains aux dimensions de ceux des terrains à l'extérieur.
Après,
où
ils iront gagner des points à l'extérieur. Et croyez-moi, sur la prestation qu'a fait Tottenham contre Manchester United, je suis pas tellement inquiet pour eux. Je serais plutôt inquiet pour le Manchester United de Mourinho.
Rémi, que dire sur Liverpool-Tottenham? Cette équipe de Liverpool avec Mohamed Salah, le nouveau héros de Anfield.
Il faut savoir que actuellement Mohamed Salah est totalement le meilleur joueur non seulement de Tottenham mais même de toute la Première Ligue. Donc il est tout de feu et c'est un joueur qui peut faire très très mal et on constate que lorsque il peut fonctionner avec Sané et tout le reste, c'est une puissance offensive dangereuse. Donc aujourd'hui, je dis au moins que lorsqu'on regarde par exemple Mohamed Salah et on regarde par exemple cette équipe de Tottenham, on se dit que Tottenham peut avoir de sérieuses difficultés parce que justement aussi Tottenham en pressant vers la dernière minute et surtout dans les 20 dernières minutes, Tottenham cède souvent parce que par la suite ils n'ont plus assez d'énergie et on sait très bien que c'est à cette période-là que Mohamed Salah marque beaucoup de buts. Donc c'est pour ça que je dis que Tottenham aujourd'hui, certes, c'est une équipe qui sait non seulement presser, défendre, mais c'est aussi une équipe qui, faut-il le dire, a déjà laissé assez de plumes en ce qui concerne la compétition, surtout les calories, l'engagement qu'ils ont eu à mettre en début de saison.
On verra donc si le podium changera à l'issue de cette 26e journée du côté de l'Angleterre. En France, c'est la bataille non pas pour la première place hein, puisque les Parisiens sont largement devant, mais par contre, toujours cette bataille pour les places de Ligue des Champions et Monaco recevra à Louis II pour la deuxième fois en 10 jours puisqu'on se souvient de la confrontation en Coupe de France. Ils recevront l'OL avec pendant ce temps leurs voisins de l'OM qui sont troisième au classement, qui reçoivent Metz. Alors le match très important pour Monaco et Lyon, c'est que Monaco semble plutôt se ressaisir. En tout cas, ils ont réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe de la Ligue en cours de semaine. Un point sépare ces deux équipes. Et surtout, on aura face à face deux buteurs. L'étalon des Gaunes, Bertrand Traoré, qui va retrouver face à lui le capitaine monégasque Falcao.
Falco, j'ai eu la chance de jouer avec lui à Chelsea. Je connais ses qualités. C'est l'un des meilleurs attaquants au monde. Et il faut le dire. Voilà. J'espère qu'il ne sera pas aussi performant contre nous. C'est vrai que contre les grands, on sait qu'il y a plus de pression. C'est des adversaires directs. Il faut forcément faire un bon résultat. Sinon, on risque de payer cher en fin de saison. Nous, on va là-bas pour gagner. On sait qu'on peut le faire. Si on joue comme on a l'habitude de jouer, tout est possible.
C'est un moment de vérité un peu entre ces deux clubs, peut-être pas entre les deux buteurs, parce qu'on sait qu'ils ont des formes...
C'est quand même une révélation, Annie, c'est que Bertrand Traoré a joué avec Falcao à Chelsea, parce que lorsqu'il est passé à Chelsea, Falcao, on l'a pas vu.
Mais bon, lui l'a vu.
Bertrand Traoré, on l'a pas trop vu non plus.
Mais ils s'entraînaient beaucoup ensemble, à mon avis.
Gilles. C'est un match super intéressant, parce que Lyon est roi des déplacements. Ils prennent énormément de points en déplacement. Et puis Jardim, en championnat face à Lyon, réussit pas très bien. Mais là, c'est vrai que Monaco se ressaisit. Donc c'est vraiment le choc des dauphins. Enfin, il y en a trois possibles. C'est très intéressant pour asseoir son leadership. C'est vraiment un match essentiel pour les deux équipes. Si Lyon venait à s'imposer, ce que je n'exclus pas quand même, parce que je trouve qu'ils sont sur une dynamique intéressante.
Sauf qu'ils ont été perdre à Bordeaux.
Oui, mais pour moi, à l'extérieur, bon, il y a quelques faux pas, mais c'est une équipe qui va vraiment contrarier Monaco. Si Lyon venait à gagner, là, ça... donnerait quand même, à mon avis, une grosse tendance pour la fin du championnat.
Rémi,
je serais d'accord avec Gilles Verdez parce que je crois que
pas,
oui, oui, c'est vrai. Attendez, à part cette défaite contre Bordeaux, lorsque vous vous rendez compte que sur un certain nombre de matchs, Lyon n'a perdu pratiquement que deux à l'extérieur. Et d'ailleurs, le meilleur match de Lyon, c'était contre Guingamp à l'extérieur. Donc, ils ont souvent fait de très, très bonnes prestations. Et je crois encore que l'AS Lyon était unijambiste parce que se reposant beaucoup sur, leur sauveur. Et maintenant, aujourd'hui, on se rend compte que Bertrand Traoré revient, ce qui signifie qu'il y aura un peu de danger un peu partout. Et moi, je crois que l'équipe de Monaco, qui n'a pas aussi une forte assise défensive comme on pouvait l'espérer, cette équipe peut bien céder contre Lyon.
Alejandro ?
Moi, je mettrais une pièce pour Lyon parce que en plus de tout ce que a dit Gilles, ils ont l'avantage quand même de ne pas avoir joué en semaine. Donc, ils seront beaucoup plus frais. Et on sait que Monaco a du mal à enchaîner les matchs ces derniers temps. Je pense que ça va se jouer très largement là-dessus.
Ouais, il y a beaucoup d'incertitudes autour de ce match, parce qu'on ne sait pas quel Lyon on aura et on ne sait pas non plus quel Monaco on aura. Donc c'est ça qui est vraiment passionnant.
Merci pour ces infos, Xavier.
Non, mais vous avez été très complet. Vous avez été très complet dans l'analyse et je ne vais pas en rajouter. On a d'autres sujets à débattre.
Et donc, Monaco a gagné une seule des 8 dernières réceptions de Lyon en championnat.
Oui, c'est vrai que Monaco, en même temps, face à Marseille, c'est vrai qu'on a vu une équipe où on avait l'impression de se souvenir par moment de celle de l'année dernière qui a terminé donc championne de France. Continuons, restons en France, mais autour d'un arbitre, un homme en noir qui n'était pas tout à fait en noir d'ailleurs ce jour-là et qui a fait beaucoup parler.
Tony Chaperon, qui a revisionné les images, s'est rendu compte que sa chute avait été provoquée involontairement. Évidemment, ce geste est inacceptable. C'est à la commission de discipline de la Ligue professionnelle de juger dans le détail des faits. C'est quelque chose d'essentiel pour la commission fédérale des arbitres et la DTA.
Eh bien oui, la commission d'éthique a donc rendu sa décision hier soir et elle aussi tacle Tony Chaperon, surnommé l'arbitre tacleur depuis sa prestation qui a fait en image le tour du monde. C'était au cours de Nantes PSG, je vous le rappelle, il y a une dizaine de jours. L'arbitre avait été renversé par un défenseur nantais, c'était Diego Carlos, et en se relevant, il avait donc essayé de non seulement de tacler le joueur, mais en plus, il lui avait infligé un double carton jaune, c'est-à-dire un carton. Ça nous fait encore tous rire, parce que c'est vrai que c'était une scène, on a cru que c'était un gag sur l'instant, durant la journée de championnat. Six mois de suspension et trois mois fermes.
Vous avez quand même Nantes qui était en position de revenir à égalité contre le PSG et de prendre un point, qui perd ce match.
On sent le cœur canari qui
oui,
parle.
Oui, non, mais franchement, c'était un scandale
total. C'est pas sur cette action que Nantes a failli égaliser quand même.
Ils avaient égalisé. Ils ont refusé le but pour un hors-jeu qui n'y est pas.
C'est autre chose,
donc il y a eu un hors-jeu, un but refusé.
Il y a un canari qui vous met des canaris dans le casque.
Oui,
vous entendez.
Donc c'est alors on dit Chaperon, voilà, sanctionné, etc. D'accord, mais à l'arrivée, les victimes dans cette affaire, ça a quand même été Nantes, qui s'est retrouvé à finir le match à 10, qui a eu un but égalisateur contre le PSG refusé et qui donc se retrouve sans le moindre point à l'issue de ce match-là. Donc Chaperon, on va pas pleurer sur son sort. Il a quand même un passif assez chargé. Ils ont été plutôt sympas de lui laisser la possibilité de faire son jubilé avant sa retraite, puisqu'il pourra revenir dans 3 mois pour arbitrer peut-être un match de barrage ou de Ligue 2, on verra. Mais non, franchement, il y a des moments où effectivement la commission de discipline n'avait pas d'autre solution que de
c'était votre carton rouge, j'ai l'impression, Xavier, c'est
le cri du cœur. Je le dis tout de suite.
Finalement, alors, Xavier a déjà pris position, on lui fait un cadeau, on le laisse faire son jubilé sur le terrain, parce que, je le rappelle, Tony Chaperon, il avait dit « j'arrête cet été », et donc, finalement, ces 3 mois, il y en a, ces 6 mois, dont 3 fermes, ça veut dire qu'on le laisse encore prendre un sifflet. Est-ce qu'il sera respecté, d'ailleurs, ce jour-là?
Alors voilà, ça tombe bien, effectivement, c'est une sanction qui arrange bien Monsieur Chaperon, que moi, je trouve, comme Xavier, extrêmement clémente.
Parce qu'un joueur prendrait en moyenne 10 matchs de suspension, c'est ça?
Et on demande l'exemplarité aux joueurs, il a demandé aussi aux arbitres. Et effectivement, votre deuxième question, je ne vois pas comment il peut revenir sur un terrain. Ça me semble impossible. Des colibets, des sifflets, tout le monde se moquera de lui. Même lui, à mon avis, ne sera pas en état. Je trouve que c'est pas un beau cadeau si jamais il va de nouveau arbitrer. Là, je pressens une catastrophe. Je pense qu'il devrait prendre sa retraite.
Rémi, est-ce que vous auriez taclé plus Monsieur Chaperon, vous?
J'aurais taclé l'arbitrage français qui est mauvais.
Oui, non, mais ça, on le sait, Rémi, là, c'était qu'il fallait tacler un arbitre.
Il est le miroir grossissant et sarcastique de l'arbitrage français qu'il faut réformer, parce que je le dis depuis très très longtemps, et d'ailleurs, même Bruno Derrien l'a aussi écrit, à une certaine période, lorsque les gens ne veulent pas croire, aujourd'hui, on a vu ça, c'est-à-dire que non seulement des hors-jeux, des buts des bizarres, des buts gags, et puis l'arbitre, justement, qui se mêle sur le terrain. Moi, je dis aujourd'hui, depuis 2010, d'ailleurs, combien d'arbitres français étaient à la Coupe du Monde? Il n'y avait que Lannoye qui était susceptible, d'arbitrer un match de Coupe du Monde. Et quand on disait à Marc Batra que ces gars-là, c'est des comédiens.
Mais là, c'était quelque chose de très particulier.
Mais c'est un comédien. Mais
Rémi Godot tire sur l'ambulance. Alors que justement, notre arbitrage remonte.
Donc c'est pas sévère.
Petit Turpin, il y a des jeunes arbitres qui sont bons.
Non, mais
tu peux pas te laisser dire ça. Mais attends, que tu tiennes ce propos. Pour là, il y a 4 ou 5 ans, effectivement, quand l'arbitrage français était absent de la Coupe du Monde.
Il est mauvais.
Mais maintenant, ils travaillent pour remonter. C'est bien, maintenant que Chaperon soit mis de côté, ça me paraît logique.
Alejandro, est-ce que c'est trop sévère? Est-ce que c'est pas assez sévère? Parce que pour l'instant, tout le monde dit que c'est pas assez sévère.
Voilà, donc je vais faire l'avocat du diable. Je vais dire
que
tout de même, on va pas faire payer à messieurs Chaperon à la fois la mauvaise qualité de l'ensemble de l'arbitrage français, un but qui n'avait pas été validé pour Nantes et qui n'avait rien à voir avec cette action litigieuse.
Oui, c'était donc, lui l'arbitre quand même.
Oui, c'était le même arbitre, mais il n'est pas le seul à annuler des. Et il n'a pas été aidé sur le coup par son juge assistant. Donc je pense que. On a adopté une décision qui respecte un peu l'homme et qui lui permet de finir de manière honorable. Rien ne dit qu'il va arbitrer quand même un match d'ici la fin de la saison, mais au moins, je pense qu'il y a eu une mesure de clémence qui était appelée même par les syndicats des footballeurs et par presque toutes les instances.
D'accord, mais alors à ce moment-là, qu'on applique ce même barème aux joueurs.
Aux joueurs, oui.
C'est-à-dire que si on est clément avec un arbitre, il faut être clément et ne pas hésiter à revisionner, pourquoi pas à changer des décisions quand elles concernent les joueurs. C'est un peu cette décision à deux vitesses, moi, que je condamne. Ok pour l'arbitre, mais souvent aussi les joueurs.
Mais Alejandro, vous avez aussi raison quand on parlait de la crédibilité pour cet arbitre, une fois qu'il va être au milieu du terrain, quand vous dites on n'est même pas sûr qu'il revienne au sifflet.
Je pense que ce sera, comme on l'a dit, très compliqué, parce qu'à moins que ce soit un match vraiment qui ne compte pour rien, ça va être extrêmement difficile pour lui, parce que la moindre décision sera observée de près et sera même jugée par le public avec ou sans la vidéo. Donc ça va être très compliqué pour lui, oui.
Bien voilà pour ce qui est donc de ce week-end et de ce qui s'annonce dans notre week-end football. Nous allons aller vers les cartons, d'autant qu'aujourd'hui on est beaucoup à donner des cartons dans ce studio.
Carton jaune,
un carton jaune.
Oulala, carton rouge
dans la confusion,
carton vert,
extraordinaire,
rien à dire.
Alors on vous l'a dit dans Radio Foot International cette semaine, aujourd'hui on accueillait beaucoup de stagiaires, il y en avait 4 entre Radio Foot et le service des sports, et le premier a donné, alors déjà Guillaume les applaudit déjà avant même qu'ils ne donnent leur carton, parce que pendant la semaine ils nous ont bien accompagnés et c'était très agréable. Le premier d'entre eux à se risquer en direct au micro, c'est Phileas Jovard. Phileas, quel est votre carton, de quelle couleur d'abord?
Alors moi c'est un carton vert à Saint-Étienne. Pour le mercato qu'ils ont fait, je trouve que c'est un mercato intéressant avec la venue de Bucci, Subotic, Mvila, Ntep. Et je trouve que Saint-Etienne peut faire une bonne fin de saison. Actuellement, Saint-Etienne est à 14e de Ligue 1, mais ils sont à 5 points de la 8e place.
David Finzel sort de ce corps. Hein. Il s'est réincarné en jeune garçon blond.
Il a peut-être eu. Merci beaucoup, Phileas. C'était très bien. La couleur et l'argumentation. Xavier Barré, avez-vous un carton pendant qu'un autre jeune stagiaire?
Oui, moi j'ai un carton vert à un garçon dont on parle souvent, mais je crois qu'il le mérite vraiment. C'est Edinson Cavani, parce qu'il a battu le record de buts du Paris Saint-Germain établi par Zlatan Ibrahimovic auparavant. Et quand on consulte les records de buts club par club en Ligue 1, on s'aperçoit que c'est tous des records qui datent des années 60-70, alors que 80 parfois, alors que Cavani, lui, c'est un record actuel. Alors forcément, c'est facilité par le fait qu'il a beaucoup de très bons joueurs autour de lui, mais ce sur quoi je veux insister, c'est sa fidélité au club. Voilà, parce que d'autres viennent, s'en vont, lui, il reste au Paris Saint-Germain, il a avalé des couleuvres pendant toute l'époque où il a joué à côté de Zlatan, puisqu'il était relégué sur le côté gauche, il a quand même marqué des buts, et là maintenant qu'il joue en pointe et qu'il doit composer avec Neymar, il continue à en marquer.
Donc sa fidélité est récompensée, et c'est un carton vert aussi pour Xavier Barré. Autre stagiaire de cette semaine, Augustin Heiss. Quelle est la couleur de votre carton?
Alors moi, je vais aussi mettre un carton vert à Arsenal, parce que selon moi, ils ont fait un très bon mercato.
Attention, parce que Rémi va vous sauter à la gorge, méfiez-vous.
Vas-y, je te défends.
Ils ont recruté Mkhitaryan et Aubameyang, et ils ont déjà joué ensemble à Dortmund, donc ils ont un bon niveau et une bonne complicité, et ça peut énormément apporter à Arsenal. Ils ont aussi prolongé, alors personne s'y attendait, Mesut Ozil. Donc,
ça vaut un carton vert aussi.
Oui. Ça, c'est pour prolonger Mesut Ozil, ils ont bien joué leur coup.
Ils ont bien joué. Donc, carton vert.
Ah oui, c'est vrai, mais vous savez, ils avaient déjà pris même Peter Cech, qui était bien évidemment un grand gardien de but. Ils ont pris Ozil, ils ont souvent pris des très très grands joueurs. Sauf que, après avoir beaucoup recruté comme ça, le résultat, c'est que, bien évidemment, ils ne gagnent jamais la Premier League depuis 2004. Donc, bravo, si c'est ça.
Te laisse pas intimider.
Il y a d'autres clubs qui l'ont pas gagné. depuis 2004, ils ont beaucoup dépensé. Hein. Bon. Liverpool, Newcastle, jamais gagné non plus.
Mancini arrive en 2010, il gagne justement en 2012. Ouais, mais... Voilà, après Mourinho mais revient en 2013, il gagne la première ligue en 2015. Et après maintenant...
Combien ils ont dépensé
Rémi est intarissable contre...
Comté arrive, il gagne
contre Arsenal et Arsène Wenger.
Guardiola arrive, il gagne, mais Mourinho...
Alors là, je suis surpris de ta part, Rémi Ngono, tu fais une énorme erreur. L'an dernier, tu nous as rappelé que Pep Guardiola n'avait rien gagné pour sa première saison à Manchester City. Et là, tu viens de nous dire le contraire.
Ah ouais, parce qu'il dépasse Mourinho dans tes fiches. Il dépasse Wenger. Il dépasse Arsène Loser.
Arsène Loser, non.
Mais il faut s'habituer. Hein. En tout cas, merci, Augustin, de votre carton. Gilles.
Il y a trop de vert, je vais mettre du rouge là.
Ah, allez.
Carton rouge à la Ligue de football professionnel. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus dirigée. On ne peut pas laisser cette institution dépérir. Tout le monde quitte le navire. Regardez, même les clubs de Ligue 1 se sont réunis hier. Ils ont dit la Ligue n'est plus compétente, ils sont nuls et ils veulent gérer eux-mêmes leurs droits de télévision, le marketing.
Les faire gérer aussi d'ailleurs, les droits télé.
Par une société, voilà. Alors, on disait à l'époque de Frédéric Thiriez, il faut le changer. Mais au moins, lui, il présidait. Là, on ne sait même plus qui préside. C'est une institution qui est en voie de déliquescence. Je tire le signal d'alarme.
Rappelez Thiriez.
Ou quelqu'un. Mais c'est plus possible de continuer comme ça.
Autre stagiaire, il s'agit de Mohamed Sacco. Alors Mohamed, quelle est la couleur de ton carton ?
C'est un carton rouge pour Mahrez, parce que son non-départ peut lui coûter sa carrière, car certains anciens joueurs de Leicester ont quitté le club au bon moment, comme N'Golo Kanté, qui en est le meilleur exemple, qui après avoir quitté Leicester a remporté le trophée une nouvelle fois du meilleur joueur d'Angleterre. Mahrez aurait pu prétendre à un meilleur salaire déjà à Manchester City. Et un carton rouge aussi à City qui n'ont pas mis le paquet. Car d'après moi, Mahrez vaut plus cher que certains joueurs comme Ousmane Dembélé. Ils ont le même talent à peu près. Et comme le marché des transferts a augmenté son prix, Mahrez vaut facilement plus de 100 millions d'euros d'après moi. Et ils ont trop attendu la fin du mercato pour tenter de recruiter ce dernier.
Voilà. Et d'ailleurs, Riyad Mahrez ne se présente pas à l'entraînement depuis.
Ça, je suis d'accord avec toi parce que Dembélé, lui, de toutes les façons, c'est le seul attaquant qui va finir avec la meilleure recrue qui risque de ne pas marquer un but. Voilà.
Ouais, je suis surpris de l'aspect économique de tous les cartons choisis par les stagiaires.
Ouais, c'est la nouvelle génération. Ouais, ils ont compris que le football, malheureusement, ça va avec le business.
Deux cartons rouges en un seul, il a mis. Je le prends dans mon équipe.
Voilà, pour ce qui était de Mohamed. Rémi Ngono, est-ce que vous avez un carton ?
Ah oui !
De quelle couleur ?
Pour ma page Facebook, Rémi Ngono officiel, la couleur serait jaune à Yann Villa. Yann Villa, donc tout de suite, notre stagiaire vient de se féliciter qu'il est revenu à Saint-Étienne, une grande équipe qui lutte contre la relégation. Eh bien, je voudrais quand même dire que ce Yann Villa, entre-temps, on nous avait dit qu'il devait aller où ? C'était à Barcelone. À une certaine période, on disait Yann Villa, l'avenir du football français. Entre-temps, il s'est perdu dans des clubs de désert, à gauche et à droite. Ça fait presque 5 clubs. Il est revenu comme ça, là.
Il est fait très
bien. Pour Saint-Étienne, donc, à une certaine période, quand même, chaque fois qu'il y a un joueur qui commence avec le football français, les Gurkouf et consorts, les Yann Villa, on dit que voilà le futur Platini, voilà le futur Zidane, voilà le futur tel. Mais non, laissez des joueurs parce que ce n'est pas en les vantant comme ça qu'ils réussissent. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Tous les poussins ne deviennent pas des coqs. »
Ils deviennent des poules peut-être des fois. Notre dernier stagiaire qui est autour de la table, c'est Ethan Claude. Bonjour.
Bonjour.
Alors Ethan, quelle est la couleur de ton carton ?
Bah alors moi, je vais donner un carton jaune à Neymar.
Parce Neymar, que... le joueur qui te fait rêver.
Oui, ouais, même si c'est mon joueur préféré, je prends un peu de recul et je lui mets un carton jaune parce qu'il est un peu trop chambreur en ce moment. Et lors de la rencontre face à Rennes en demi-finale de la Coupe de la Ligue, il fait quand même semblant d'aller aider Amari Traoré à se relever avant de retirer sa main in extremis. Et
C'est pas très sympa, c'est ça ?
Ouais, voilà, c'est pas
mauvais pas geste.
Ça. Ouais, mauvais geste, mais enfin ce que j'ai écrit à la fin. Moi j'ai dit alors on peut être génial balle au pied, mais mais ça ne dispense pas d'être gentleman sur le terrain.
Et ben voilà, très bien.
Un vrai proverbe de RFI.
Merci à Stéphane Fidel qui m'a aidé quand même.
David Fidel. Alejandro.
Moi, un carton rouge que je partage entre Maradona et Trump, rien que ça.
Oula.
C'est les chemins de traverse, là.
C'est un peu haut, là.
Ah, bah, ils ont réussi quand même à écrire un nouveau chapitre dans l'histoire des relations internationales. Vous savez que Maradona n'avait pas remis les pieds aux États-Unis depuis 94 et son départ de la Coupe du Monde. Là, il voulait revenir parce qu'il tente un procès à sa femme à Miami. Donc il a négocié par ses avocats pour avoir le visa, tout semblait bien se passer, jusqu'à ce qu'il donne une interview à une télévision vénézuélienne et il compare Trump à une poupée très populaire en Argentine qui s'appelle Chirolita, qui a la même coiffure et qui est tenue par un ventriloque. Et du coup, ça n'a pas plu aux États-Unis et il n'a pas eu son visa.
Je croyais que c'était parce qu'il avait tatoué le Che et Fidel Castro sur les mollets.
C'est anti-démocratique puisqu'il y a les poupées Trump partout, on le dessine à gauche et à droite. Dire qu'on ne peut plus caricaturer ou bien critiquer Trump,
c'est une dictature. Comment ces cartons
Radio Foot International donne son carton vert à tous les stagiaires de la semaine qui ont été super dans notre bureau et qu'on accueillera quand ils voudront et quand ils voudront revenir. Merci à tous pour ce Café des Sports aujourd'hui. Merci à David Finzel qui vous a aidé mais qui m'a aidé aussi à préparer l'émission. Guillaume Ploquin était à la réalisation et on vous dit bien sûr à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Rémi, vous verrez même en chair et en os Matteo Cioffi, l'italien. Il sera là dans ce studio. À la semaine prochaine.